Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Après-midi riche en échanges, en émotions et en intensité au LPO le mardi 28 janvier 2025. Trois classes de terminale des filières générales, professionnelles et technologiques étaient invitées à écouter une lecture musicale qui retraçait le parcours hors norme de l'avocate insoumise Gisèle Halimi. Nadia Larbi-Houen à la voix et Maïté Platero au violoncelle de la compagnie Novecento ont offert une lecture passionnée de textes écrits par Gisèle Halimi avant de répondre lors d'un bord de scène aux questions des élèves des trois classes. Nous vous proposons d'écouter la conclusion du spectacle ainsi que les échanges entre les artistes et les élèves pour vous faire une idée de la richesse de cet après-midi particulière au lycée.
Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, il m'échoit aujourd'hui un très rare privilège. Je ressens avec plénitude un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma profession d'avocate. Jamais autant qu'aujourd'hui je ne me serais sentie à la fois inculpée dans le box et avocate à la barre. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois autres femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat. Elles sont ma pratique quotidienne. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, celle des classes des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose chaque fois la même question. Et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, ou pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cette enceinte de justice, ou ailleurs? Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Et si vous permettez, je souhaiterais terminer par ceci. Car si notre convenable déontologie prescrit aux avocats le recul nécessaire, la distance avec leurs clients, sans doute n'a-t-elle pas envisagé que les avocates, comme toutes les femmes, pouvaient aussi avorter, qu'elles pouvaient le dire publiquement, comme je le fais moi-même aujourd'hui. J'ai avorté, messieurs. Je suis une avocate qui a transgressé la loi. Regardez-vous, messieurs, et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent aujourd'hui devant quatre hommes. Pour parler de quoi? De leur utérus, de leur maternité, de leur avortement, de leur exigence d'être physiquement libres. Est-ce que la justice ne commence pas là? Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Rebellez-vous. Pensez à vous. Soyez égoïste. Enfin, j'affirme que la maternité ne doit pas être l'unique horizon et que l'instinct maternel est un immense bobard à jeter aux poubelles de l'histoire. La maternité n'est ni un devoir, ni l'unique moyen d'accomplissement d'une femme. Alors j'insiste, soyez libre. Encore une chose, n'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente les rapports hommes-femmes, enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre et où la libération des femmes signerait aussi celle des hommes, désormais soulagés des dictats de la virilité. Quand on y songe, quel fardeau sur leurs épaules. Le combat est une dynamique, si on arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutu, car les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentive, combative. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui porte atteinte à votre dignité, la vôtre et celle de toutes les femmes. On ne naît pas féministe, on le devient.
Ça fait combien de temps que vous faites cette pièce de théâtre ?
Alors, merci pour la question. La pièce a été créée en mars 2024. Voilà, donc ça fait un an, pas tout à fait. Elle a été jouée, pas énormément, 2, 3, 4, 5.
Ouais.
5 ou 6 fois. Voilà. Et devant des lycéens, c'est la première fois. On a joué ce spectacle-là, mais en version un peu plus courte, pour des collégiens, en novembre dernier. Voilà, c'est un spectacle qu'on a souhaité proposer aux établissements scolaires, parce qu'on sait qu'il y a certaines thématiques qui sont abordées dans vos cours. Et puis c'est vrai que, voilà, on fait partie de la compagnie Novecento, c'est une compagnie de théâtre installée à Lyon. On travaille beaucoup sur les sujets de société, beaucoup aussi sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'égalité hommes-femmes. Et quasiment tous nos spectacles sont voués à être joués dans les établissements scolaires. Donc c'était important pour nous de venir ici grâce à Michel Lisson de l'association Coup de Soleil en Rhône-Alpes qui nous a proposé ce partenariat avec Coup de Soleil et puis le lycée.
Est-ce que dans votre vie, vous avez eu l'occasion de rencontrer Gisèle Halimi ?
Malheureusement, non. Je ne l'ai pas rencontrée. Maïté, est-ce
Moi
que tu l'as rencontrée ?
Moi non plus, non.
Malheureusement, non. Elle est décédée en 2020. Mais non, c'est vrai qu'à cette période, je ne m'intéressais pas forcément encore à sa personnalité, à son parcours. J'aurais bien aimé, oui, j'aurais bien aimé, c'est vrai, la rencontrer, lui poser des questions sur... même si on raconte son engagement, mais c'est vrai que d'avoir la personne en face, c'est toujours impressionnant et oui, j'aurais bien aimé, mais malheureusement non.
Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne définition du féminisme ? Parce qu'aujourd'hui, on entend plein de choses dessus.
Je ne pense pas avoir la bonne définition. J'ai la mienne. L'égalité entre les hommes et les femmes. Égalité sur le plan professionnel, sur le plan personnel, parce qu'on sait qu'à la maison, ce n'est pas toujours évident dans certaines familles. D'ailleurs, elle le raconte, Gisèle Halimi, dans sa famille, les garçons avaient tout pouvoir et pas les filles. Les filles, il fallait qu'elles servent les garçons à la maison. Moi, je l'ai un peu vécu aussi, ça. Et Maïté aussi. Et pourtant, je suis plus jeune qu'elle. Mais encore maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal ça. Et ça, il faudrait que ça change, parce que c'est pas normal. On est tous égaux. Il n'y a pas de raison qu'à la maison ou professionnellement, il y ait des différences. Et de salaire, du coup, professionnellement, parce qu'il y a des professions pour lesquelles les femmes ont du mal à accéder. Et quand elles y accèdent, elles sont moins payées, moins bien payées. Donc voilà, mon féminisme à moi, il est là.
Du coup, est-ce que avant chaque pièce, vous vous entraînez à lire ? Parce que j'imagine que ce n'est pas un travail facile, surtout de reprendre le texte en entier et le transmettre aux autres, et aussi le fait de transmettre des émotions à travers le texte, l'intonation du texte.
Oui, c'est nécessaire. Mais c'est comme vous, quand vous allez avoir une interrogation écrite. Eh bien, vous replongez dans vos notes, dans vos écrits, dans les bouquins. Mais moi, c'est pareil, je relis mon texte. C'est important, effectivement, pour bien transmettre et comprendre ce que je dis pour pouvoir le transmettre. Donc ça vaut aussi pour vous quand vous apprenez vos cours. Si vous ne comprenez pas le cours, vous ne pouvez pas répondre quand vous avez un devoir écrit, etc. Donc oui, c'est important de prendre ce temps-là avant de le lire à voix basse, mais aussi à voix haute, parce que voilà, faut mettre des temps de pause, des réattaques, etc. Et puis, je réponds pas à la place de Maïté, mais pour elle, c'est pareil.
Oui, pour moi, c'est pareil. Il faut toujours que je me chauffe un petit peu, parce que si on a les doigts froids, c'est compliqué. Donc pareil, il faut un petit peu avant, faut que je travaille un petit peu, refaire 2-3 démanchés pour avoir un petit peu les morceaux dans les doigts.
Et j'avais une petite dernière question. Est-ce que ça vous plaît ce que vous faites ?
Énormément. Le fait déjà de travailler sur des textes, des personnalités comme ça, c'est très gratifiant. Puis c'est notre métier. Et puis de le transmettre aux autres aussi.
Alors, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression que ça nous plaît ?
Oui.
Ouais, je confirme. Énormément. Énormément.
Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres spectacles qui racontaient le parcours de personnages importants comme Gisèle Halimi ?
Alors j'ai travaillé sur le personnage de Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine, son parcours, sa vie, son parcours de femme aussi dans les années 20-25 au Mexique, le patriarcat, sa place de femme dans la société, chez elle, en tant que peintre aussi, se démarquer. Oui, donc Frida Kahlo. Il y a eu aussi Sophie Scholl, une jeune résistante allemande qui a fait partie d'un mouvement de résistants, de jeunes étudiants qui s'appelle La Rose Blanche, qui a lutté contre le régime nazi. Voilà, par exemple.
Ça fait combien de temps que vous pratiquez du violon, vous ?
Alors, j'ai commencé le violoncelle à 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. Donc, tu vois, ça fait très, 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 très longtemps que je fais du violoncelle, oui. Comment ?
Ça se voit que c'est maîtrisé.
Oh, c'est gentil. Alors vraiment, je te remercie, c'est un très joli compliment que tu me fais. Merci.
Quelle est la partition que vous jouez justement pendant ce spectacle ?
Il y a plusieurs morceaux. Donc, je joue le concerto, un début de concerto pour violoncelle de Haydn en do majeur. Col Nidrei de Max Bruch. Je joue plusieurs pièces de Bach et une improvisation, un morceau que j'ai écrit du coup pour le spectacle de Nadia. Je ne sais pas si vous vous souvenez le moment où elle parle de Djamila Boupacha. Il y a une improvisation que j'ai écrite et qui du coup reste dans le spectacle. Voilà.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Gisèle Halimi et pas une autre personnalité.
Et évidemment, il y a plein d'autres personnalités que j'aimerais travailler au théâtre. Donc, partager en tout cas ce que j'admire chez elle, moi, c'est important. Pour quand je travaille un texte, quand je fais des recherches sur un personnage pour faire un spectacle, c'est aussi pour le transmettre à nouveau. Eh bien, parce que Gisèle Halimi fait partie de ces femmes... Bon, c'est un mot qui est un peu à la mode maintenant, des femmes inspirantes. Voilà, elle m'inspire plein de choses. Son combat, sa vie, le parcours qu'elle a eu, voilà, c'est un exemple pour moi et pour d'autres femmes aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire partager ça à d'autres en créant ce spectacle avec Maïté. Et j'ai un autre spectacle, toujours avec Gisèle Halimi, tellement je l'aime beaucoup. C'est un dialogue en miroir entre Gisèle Halimi et Simone Veil, que j'ai imaginé. En fait, ce sont les combats et luttes qu'elles ont eues en commun que j'ai voulu mettre en miroir. Donc, on est deux comédiennes sur scène. On est à la fois Gisèle Halimi toutes les deux. Des fois, on est une seule Gisèle Halimi. Quelquefois, on est toutes les deux Simone Veil. Quelquefois, on est seule Simone Veil. Voilà, c'est un dialogue que j'ai créé, imaginé. Mais avec leur parcours vraiment semblable, parce qu'elles ont beaucoup de similitudes. Si un jour j'ai l'occasion de vous présenter ce spectacle-là, vous verrez qu'il y a plein de combats qu'elles ont eus en commun.
Est-ce que vous vous retrouvez dans les personnages de Simone Veil, Madame de Beauvoir et Halimi ?
Pour leur combat en tant que femme, oui, je, je, je m'y retrouve après. Moi, j'ai pas milité comme elles l'ont fait. Je le fais à ma manière. Voilà, ma manière à moi, c'est de le faire sur scène et de raconter leur histoire.
Vous partagez les mêmes valeurs qu'elles, en tout cas.
C'est important d'aimer, en fait, d'aimer le personnage. Quelquefois, on aime un personnage pas forcément pour les choses qu'elle a fait, mais pour la personne qu'elle est. Ça peut être aussi bizarre dit comme ça, mais ça, voilà, on peut quand même défendre quelqu'un, parler d'elle parce qu'elle a un parcours atypique ou voilà, intéressant.
Je vous remercie.
Merci à toi.
Donc, déjà, la pièce fut très bien jouée, donc merci à vous. Je voudrais savoir si on pouvait vous retrouver déjà vous quelque part ou sur voir d'autres pièces de théâtre comme celle-ci sur les réseaux, peu importe.
Oui, voilà, moi je suis co-directrice de la compagnie Novecento, donc vous pouvez aller sur internet, compagnie Novecento. Du coup, on décrit les spectacles que l'on joue sur les réseaux. Voilà, bien sûr, pour communiquer sur ce qu'on fait, c'est important les réseaux sociaux, malgré tout ce qui se passe. Moi, je ne raconte pas ma vie personnelle sur les réseaux, je raconte vraiment. C'est une façon de montrer mon travail et de montrer ce que je fais et de donner envie aux gens d'aller voir ce qu'on fait à la compagnie. Et puis je fais un peu d'audiovisuel, je joue dans certains films, pas les grands rôles, hein, mais ça m'arrive. Bah, d'ailleurs hier, il y a un téléfilm qui est passé sur la 2 ou la 3, je ne sais plus. Il s'appelle Les Bois Maudits. Vous pourrez me voir en replay, si vous voulez. Si vous voulez me voir, par exemple. J'ai répondu à ta question, ça va? Merci.
Qu'est-ce qui vous a amené à être féministe, finalement?
Je crois pas que je le sois devenue. Je crois que j'étais féministe sans connaître le mot. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune à la maison, fallait servir mon frère. Et je disais à ma mère, mais pourquoi je dois le servir? Typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon frère. Je dis, mais il a 2 ans de plus que moi, pourquoi je dois lui mettre la table? Donc voilà, mon féminisme à moi, il démarrait comme Gisèle. Et je ne trouvais pas ça normal, déjà.
Et j'ai vécu aussi un peu les mêmes choses à la maison. Voilà, et c'est pareil, je confirme, c'est ça, c'est cette injustice, le fait d'être une femme, on nous cantonne à devoir mettre la table, faire des choses, et les hommes, eux, n'ont pas à le faire. Alors ça, pour moi, c'était quelque chose qui me dépassait.
Et puis même maintenant, enfin, je veux dire, on est en lutte permanente. Je suis co-directrice de la compagnie Novecento, donc l'autre co-directeur, c'est un homme. J'ai souvent le téléphone avec moi, et souvent c'est moi qui réponds au téléphone, et on me demande, est-ce que je pourrais parler au directeur? Ils ne pensent pas une seconde que je pourrais être directrice. Déjà ça me... Voilà, un exemple parmi d'autres.
Quand on retrace le parcours de Gisèle Halimi, on est surpris par son courage. D'où vient ce courage pour vous?
Voilà, la révolte, comme elle dit, elle devait se sauver. Elle devait se sauver. Et il y a une chose qui est très importante, je ne sais pas si vous l'avez certainement entendu, mais ça a pas. J'espère que ça fait écho en vous, c'est l'école, l'éducation. Ça l'a sauvée énormément, parce qu'elle vivait dans une famille qui n'avait jamais été à l'école, une famille pauvre et une famille qui ne lisait pas. Et elle avait ce besoin de savoir. Parce qu'on lui disait des choses, ne serait-ce que sa mère, qui était très dans la religion, lui disait des choses. Et elle disait, mais moi, je veux savoir vraiment si ce que tu me dis est vrai. Elle avait envie de connaître. La connaissance était très importante. Donc ça fait partie de l'émancipation de toute personne. Et je vous engage à poursuivre vos études le plus longtemps que vous pouvez, parce que vraiment, c'est un pouvoir que vous pouvez prendre par l'éducation.
Et j'aimerais ajouter à ce que vous avez répondu tout à l'heure que l'éducation c'est important à l'école. D'après ce que j'ai entendu parler de la livre qu'elle a écrit, j'ai bien compris qu'il y a aussi sa professeure de français, je ne me trompe pas, qui l'a beaucoup aidée. Donc ça montre aussi que les enseignants sont là pour nous accompagner, nous aider tout au long de notre scolarité.
Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre de ça à plein temps?
Oui, c'est mon métier, mais c'est vrai que ça n'était pas mon premier métier parce que les parents ont toujours un petit peu peur qu'il faut que les enfants s'en sortent. Du coup, il fallait que je trouve un métier où je pouvais avoir un salaire à la fin du mois. Après, j'ai choisi un métier quand même que j'aimais. Hein. J'étais préparatrice en pharmacie, mais j'ai toujours fait un peu de théâtre à côté, un peu de musique, un peu de danse, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire que du théâtre. J'ai eu mes enfants ont grandi. Je me suis dit, bon, ça y est, je les ai bien éduqués, ils sont bien partis. Et je me dis, maintenant, il faut que je fasse ce que j'aime vraiment. Et j'essaie de faire ce métier-là à temps plein. Je vais voir si ça marche. Et puis, je croise les doigts et ça marche depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, je continue comme ça. Mais c'est vrai que c'est jamais évident. Hein. Ces métiers sont très, très fragiles. Moi je devais gagner des sous quand j'étais jeune. Mes parents voulaient absolument que j'aie un diplôme pour gagner ma vie. Mais si c'est un métier qui ne me plaît pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, moi, j'ai besoin de m'épanouir aussi professionnellement. Donc, je me suis lancée dans ce métier de comédienne, même si je savais que ça n'allait pas être facile tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est aussi l'épanouissement dans lequel tu vis, dans lequel tu travailles, plus que l'argent, me semble-t-il. Enfin, pour moi. Bien sûr, ça, c'est important aussi.
Il faut applaudir les comédiennes.
Au revoir.
Merci mesdames, c'était vraiment super.